laissé quelques jours fermenter le teff. Le reste, de l'eau, il n'y a rien, ni sucre, ni sel, ni matière grasse. Et nous, en Éthiopie, nous consommons midi, soir, même le matin.
C'est une plante qui est comment ?
Elle est très jolie, comme les cheveux, très très fine.
Le goût du monde, Clémence de Navy.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans Le Goût du Monde, l'émission où l'on parle de cuisine, de marmite, du lien créé autour de la table, des mots, de goût, des histoires contées. Justement, aujourd'hui, c'est une histoire que nous aimons beaucoup, une histoire d'humanité et de points communs noués à notre insu, une transformation silencieuse et la vie partout. On va parler de fermentation, car c'est bien de la vie dont il s'agit ici aujourd'hui, n'est-ce pas Marie-Claire Frédéric ?
Tout à fait.
Vous confirmez, vous êtes journaliste, voilà. L'auteur aussi de plusieurs livres sur et autour de la fermentation, les boissons naturelles fermentées, le fromage et bien sûr Ni cru ni cuit, qui a été publié aux éditions de l'Alma, qui est un livre sous-titré Histoire et civilisation de l'alimentation fermentée. Il vient d'être réédité, c'est un voyage dans le temps et dans le monde, une enquête absolument passionnante. La fermentation généralement, on en a parlé déjà toutes les deux, cette fermentation, ce mot, je ne sais pas pourquoi, il donne une mauvaise image de ce que c'est que la fermentation. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est que la fermentation ?
Alors, la fermentation, c'est tout simplement la transformation d'un aliment sous l'effet de micro-organismes qui peuvent être des bactéries, des levures, voire des moisissures. Alors, le mot fermenter, c'est vrai que c'est un peu un inconvénient lexical, on peut dire, parce qu'il a des synonymes tels que pourri, avarié, trop vieux. Enfin, c'est l'idée, c'est que ça serait un aliment dépassé, qui aurait passé sa date limite de consommation, et que, donc, on hésite un peu. Il y a ce double sens qui est assez gênant.
D'ailleurs, c'est drôle parce que quand on prononce, systématiquement, on va tordre le nez, on va faire des grimaces,
c'est
fermentation.
Ça, exactement.
Or, fermentation est pourri. Mais on n'est pas du tout dans
fait,
la même...
En fait, on n'est pas dans la même optique, parce que le pourri, c'est la dégradation de l'aliment. Tandis que la fermentation, au contraire, va améliorer l'aliment. La fermentation va déjà permettre sa conservation sur des durées très longues. Par exemple, le lait cru tel qu'il sort du pied de l'animal, de la vache ou de la chèvre, vous allez pouvoir le conserver quelques jours, même si vous avez un frigo, mettons une semaine. Si vous faites un parmesan maturé dans une cave, il va se garder 30 mois, voire plus.
Donc voilà. On permet de
conserver les aliments.
J'ai envie de dire, c'est un peu cette notion de vie et de célébration.
Exactement.
Du vivant, en fait.
Exactement. Ça permet de nier la mort, en quelque sorte, la fermentation. Et il y a ce paradoxe aussi qui est intéressant, parce que la fermentation, c'est aussi le compost. Et le compost, c'est quelque chose qui fermente, qui a l'air mort, mais qui va redonner la vie ensuite à la terre pour faire pousser de nouvelles plantes. Et la fermentation des aliments, c'est un peu la même chose. Ça passe par un côté, donc par les microbes, les moisissures, des choses qui nous dégoûtent un peu. Mais ensuite, ça va créer un aliment absolument délicieux qui va redonner vie aux hommes, puisque bon, les hommes vont s'en nourrir. Et cet aliment va se conserver aussi sur des durées très longues.
C'est très ludique en plus. On a l'impression, quand on regarde un petit peu, par exemple, si on prend la bière, parce qu'on l'oublie, la bière, c'est une boisson fermentée. Elle a toujours été là, la bière. Toujours été avec des aliments fermentés.
Exactement. La bière, ça existe depuis très très longtemps. Les archéologues, même récemment, ont fait des découvertes qui montreraient que la bière existait avant l'invention de l'agriculture. Et on se pose la question, qu'est-ce qui était là en premier ? Est-ce le pain ou la bière ? Et on penche beaucoup pour la bière, en fait.
À l'origine de l'humanité.
À l'origine de l'humanité, voilà.
Dans votre livre Ni cru ni cuit, vous retracez évidemment l'histoire de la fermentation et de sa découverte, et on se pose une question. L'homme a-t-il découvert le feu avant ou après de consommer des aliments fermentés ? Est-ce que vous avez trouvé une réponse ?
Il y a beaucoup d'indices qui montrent que les aliments fermentés étaient là avant la cuisson, avant la cuisine proprement dite. En fait, les premiers hommes ont sans doute voulu emmagasiner que ce soit des végétaux ou même des proies animales, enfin des animaux qu'ils avaient chassés. Il suffit de les enterrer dans des fosses dans le but de les conserver pour plus tard. Et quand c'est dans une fosse, c'est en anaérobie. Les conditions sont réunies pour que ça fermente. Et effectivement, ça se conservait. Donc voilà, c'est tout simple. Hein. Il suffit de mettre les aliments comme ça, enterrés. Ensuite, quand il y a eu la poterie, on les a mis dans des poteries, dans des jarres. Et ça se conservait tout naturellement.
C'était vraiment l'objectif premier, la conservation
pour plus
tard. Je pense que
l'objectif premier, ça devait être la conservation. Oui, oui. Et ensuite, on s'est aperçu que ça transformait le goût. Alors, peut-être qu'on n'aimait pas ça au début, mais le fait qu'il fallait bien manger pour vivre, donc on l'a mangé. Puis, au fil de l'évolution, on a aimé ces goûts-là, ces goûts de la fermentation. Et voilà, c'est le fil d'une très très longue évolution jusqu'à nous.
Oui, parce que là, on est parti des hommes préhistoriques jusqu'à aujourd'hui. Il y a aussi un effet sur la qualité, les textures.
Oui, il y a un effet aussi sur la qualité, les textures, et il y a aussi surtout un effet sur la santé. C'est-à-dire que les peuples qui mangeaient ces aliments vivaient mieux que les autres, étaient moins malades que les autres, donc se sont développés plus facilement que les autres. Je pense que la fermentation a sauvé l'humanité de périodes de pénurie, de famine, de guerre, de mauvaises saisons, etc.
Et comment est-ce qu'on a découvert qu'il était utile de faire fermenter?
Je ne sais pas si on l'a vraiment découvert. Je pense que ça s'est fait comme ça. Parce qu'au début, donc, il y a à l'époque des chasseurs-cueilleurs. Donc, les chasseurs font toujours ce qu'on appelle aujourd'hui maturer la viande. Autrefois, on disait faisander, mais maintenant, maturer, c'est un mot poli pour dire la même chose. Donc, tous les chasseurs du monde font faisander ou maturer la viande. Ça, c'est une fermentation. Ça permet de la conserver, ça permet de l'attendrir pour pouvoir la manger, ça change le goût. Et ça, bon, ça se fait depuis le plus lointain, donc depuis les brumes du temps, quoi. On ne sait pas depuis quand ça se fait. Et suite à cela, je pense qu'on a essayé de faire la même chose avec les végétaux. Et faut dire aussi, au point de vue des végétaux, les premières choucroutes, entre guillemets, consommées par les hommes, c'était sans doute le contenu de l'estomac des herbivores qu'ils devaient chasser. Parce que, bon, nous, ça nous dégoûte un peu, mais c'est très fréquent dans les endroits du monde qui sont très proches du cercle polaire. Ça va de la Sibérie jusqu'au nord de l'Europe et même chez les Inuits du Canada et de l'Alaska. Donc, on consomme d'abord, quand on a tué un caribou ou un renne, on consomme le contenu de l'estomac.
D'accord, et c'est, en priorité. Et ensuite...
Voilà, et c'est le seul moyen aussi pour ces populations d'avoir certaines vitamines, comme la vitamine C tout simplement, qui sont indispensables à la vie et qu'on ne peut pas avoir autrement puisque dans ces régions, ils ne poussent rien en fait, au point de vue végétal.
Marie-Claire Frédéric, ce qui est fascinant aussi, c'est qu'on ne peut pas, sur le plan géographique, concentrer la fermentation à une région du monde. Elle est partout,
absolument partout. Il n'y a pas une seule civilisation connue qui n'a pas d'aliments fermentés. Alors peut-être qu'il y en a eu dans le passé, mais elles ont disparu sans qu'on en ait eu de traces, en fait.
En tout cas, celles dont on a conservé des traces.
Ont des aliments fermentés.
Et elle accompagne, alors vous le dites très bien dans votre livre, elle accompagne l'homme dans sa vie, de la naissance à la mort, et même parfois au-delà, pour ce qui était des Égyptiens qui voyageaient
avec des jarres de bière et de vin pour les plus riches.
Est-ce que vous pourriez nous raconter, quand vous dites de la naissance, par exemple,
C'est-à-dire que l'aliment fermenté, symboliquement, accompagne toute la vie de l'homme. Bah, de la naissance, par exemple, dans de très nombreux endroits du monde, quand un bébé naît, on le baptise souvent avec une boisson fermentée. En Afrique, par exemple, on l'asperge avec de la bière. En Asie, avec du vin de riz. Enfin voilà, il y a toujours l'idée du fermenté qui est liée à la naissance. Et quand on donne le nom à l'enfant, très souvent aussi, il y a une cérémonie dans laquelle on doit consommer un aliment fermenté ou une boisson fermentée.
Et puis après, il va y avoir les fêtes.
Les fêtes, ensuite le mariage, c'est pareil, le mariage, il y a toujours un aliment fermenté. Soit on échange une coupe, les mariés échangent une coupe de vin de riz ou de bière, ou de vin tout simplement, dans la région juive on échange une coupe de vin. Le mariage aussi, par exemple en Grèce, on fait un pain spécial, on fait un pain très beau, très ouvragé, avec des très jolies décorations. Ce sont les femmes du village qui font ce pain. En Vendée, en France, il y a la tradition aussi de la danse de la brioche pour le mariage. Donc voilà, donc partout dans le monde, il y a quelque chose comme ça. Et puis ensuite, bon, pour l'enterrement, la mort, c'est vrai également. Il y a toujours une cérémonie dans laquelle on consomme un aliment fermenté, où on offre à la divinité, on laisse dans la tombe de la personne aussi des aliments fermentés dans pour le voyage futur.
Dans les libations aux ancêtres également.
Voilà, il va y avoir dans les libations aux ancêtres également. Vers les libations aux dieux, il y a toujours quelque chose de fermenté.
Est-ce que c'est une question de transmission aussi, où on va transmettre comme un bâton, ça y est, tu es grand, donc je te transmets le savoir d'une fermentation, alors peut-être un début de ferment qu'on va transmettre.
Exactement aussi, il y a l'idée de transmission est très très forte pour la fermentation. Alors c'est valable pour les procédés de fermentation qu'on se transmettait. Autrefois, il faut dire, la fermentation, on comprenait pas comment ça se produisait.
Ça se produisait.
Voilà, on connaissait pas les micro-organismes. Donc on pensait que c'était l'effet des dieux, des esprits, de choses surnaturelles. Et il fallait vraiment respecter certaines règles. Donc on savait que ça marchait en faisant certains gestes, certains procédés précis. Donc il fallait les transmettre tels quels absolument, donc de père en fils ou de mère en fille, de maître à disciple. Donc il y a cette idée-là. Et il y a aussi l'idée, quand un enfant est grand, quand un enfant arrive à l'âge adulte, il y a très souvent une cérémonie dans laquelle on consomme, ou on fait consommer à l'enfant des boissons fermentées ou des aliments fermentés. En Afrique, par exemple, très souvent, c'est la bière qui est... Enfin, quand je parle de bière, c'est la bière locale, hein, la bière faite avec des céréales locales. Donc, on fait consommer à l'enfant, voilà, parce que maintenant, il est adulte, il peut consommer de la bière.
En Éthiopie aussi.
En Éthiopie.
L'un des plus vieux vins du monde, on peut dire, les hydromels.
Le tedj, qui est un vin à base de miel. D'ailleurs, l'hydromel, c'est sans doute la première boisson fermentée que l'homme ait conçue. Voilà. L'hydromel, je pense on a bu des hydromels naturels. Parce que imaginez une ruche à l'époque préhistorique. Bon, les ruches étaient naturelles, sauvages, donc très souvent dans les arbres ou en haut des falaises. Et par exemple, une tempête, un orage, la ruche tombe, se remplit d'eau. Ensuite, le soleil revient, la chaleur, l'eau et le miel, bah, ça fermente en hydromel. Des hommes qui passent par là ont goûté ce breuvage. Ils l'ont trouvé intéressant. Après, ils étaient d'humeur joyeuse.
Oui, parce que c'est une fermentation qui devient alcoolique.
Qui devient alcoolique, voilà. Et ils se sont trouvés donc d'humeur joyeuse et ils ont trouvé cette boisson très agréable. Et peut-être qu'ensuite, ils ont essayé de la reproduire en mélangeant du miel et de l'eau, tout simplement, et en laissant au soleil. Et ça fermente.
À titre d'expérimentation, voilà. Vous avez dit que c'était un sujet très ludique et très joyeux, que la fermentation, elle nous accompagne dans notre vie au quotidien. Il y a des aliments fermentés que l'on mange chaque jour, on ne sait même pas.
Vous avez dit
le pain, je ne suis pas sûre que tout le monde pense au pain.
Le pain est fermenté, ainsi que toutes les viennoiseries, croissants, brioches. En fait, nous sommes les monsieur Jourdain de la fermentation. Nous en mangeons tous les jours dans notre vie quotidienne, sans le savoir. Voilà. Donc le pain, bon, le vin, la bière, on a cité, mais il y a également d'autres
le café, le chocolat.
Le café, le chocolat.
Le thé.
Le thé, la vanille aussi. La vanille, si elle n'était pas fermentée, elle n'aurait pas ce goût absolument sublime qu'on lui connaît. Il y a aussi le hareng sort, les poissons, même le saumon fumé, tous les poissons saumurés sont fermentés, le jambon sec, le saucisson. Il y a aussi les olives, les câpres et les cornichons qui étaient autrefois fermentés. Malheureusement qu'ils ne le sont plus trop maintenant.
Mais ça, on va pouvoir en discuter. Je vous propose de partir en Chine, juste pour finir le petit déjeuner qu'a partagé Heike Schmidt avec Chang Tuiglan dans la banlieue de Pékin.
Il faut que ça cuise 20 minutes. Donc là, vous avez un pot en terre cuite. Qu'est-ce qu'il y a dedans?
C'est de la moutarde brune salée.
Alors, ce sont des légumes macérés.
Les feuilles de moutarde brune, elles sont vendues seulement pendant l'hiver. Je les ai lavées, puis séchées. Il faut y rajouter du sel. 20 jours après, elles sont prêtes à être mangées. Celle-là, elle mijote dans la jarre depuis 2 ans. Allez, la soupe est prête. J'éteins le feu.
Alors, c'est une soupe rouge. Rouge Bordeaux.
Oui, c'est le riz violet qui donne la couleur à la soupe. Je vous sers de l'œuf salé de canard avec. Ma belle-mère les a préparés chez nous à la campagne. Il faut mélanger de la boue jaune avec du sel et puis enterrer les œufs dans ce mélange. 20 jours après, on peut les manger.
Ah ouais.
Vous voyez la terre jaune à l'extérieur de la coque? Ceux-ci sont crus. Il faut juste enlever la terre et les cuire dans l'eau bouillante.
On rajoute à la soupe des légumes salés.
Oui, ce sont les feuilles de moutarde brune macérées et sautées à la poêle avec des soja jaunes. Je laisse tremper le soja jaune pendant longtemps dans de l'eau, puis je mets un peu d'huile dans une poêle pour les cuire. Quand le soja est presque cuit, j'y ajoute les feuilles de moutarde que je garde toujours dans ma jarre en terre cuite.
Et voilà, l'œuf fermenté, un peu, avec les feuilles de moutarde, quand on pourrait manger un œuf avec du bacon, produit
exactement,
fermenté.
Voilà, exactement. Quand on,
c'est un peu partout dans le monde, c'est ce qu'on disait. Marie-Claire, Frédéric, la fermentation, il y en a plusieurs types. On est allé vite quand même sur ces aliments, parce qu'est-ce qu'on n'a pas tout vu du tout de tous les aliments qui sont fermentés et qu'on mange tous les jours. On a le fromage, qu'on appelle
le abordé. Le fromage, tout ce qui est fromage, yaourt, produits laitiers, fermentés. Qu'est-ce qu'on a cité? Les légumes, rapidement, on n'a pas cité la choucroute. Bon, j'ai cité les olives, les câpres, les cornichons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Est-ce qu'on peut tout fermenter?
Toutes les catégories d'aliments peuvent se fermenter. Viande, poisson, céréales, légumineuses et légumes végétaux.
Alors, pour fermenter, on fait comment?
Plusieurs types de fermentation. On nomme les fermentations d'après le produit principal qui est fabriqué. Donc, il y a la fermentation alcoolique qui va produire de l'alcool. La fermentation lactique produit de l'acide lactique. Il existe aussi la fermentation propionique qui va fabriquer de l'acide propionique. C'est la fermentation qui donne les trous dans l'emmental et qui donne le goût particulier aussi qu'a
l'emmental. Voilà.
Et il y a aussi la fermentation butyrique. Alors celle-là, elle donne le goût particulier au beurre et quand elle est trop prolongée, ça va donner ce qu'on appelle le goût du beurre rance. Alors c'est un défaut chez nous, mais dans certaines cultures du monde, au contraire, c'est très valorisé.
C'est très
apprécié, oui.
Là, notamment en Afrique du Nord.
En Afrique du Nord.
Est-ce que c'est le fameux semaine?
C'est ça, exactement. Le semaine, donc, c'est du beurre fermenté. Alors, en fait, c'est simple à préparer. Il faut clarifier le beurre. Ensuite, on le met dans une jarre fermée et on attend au minimum un an. Et le beurre va se bonifier avec le temps. On peut le garder beaucoup plus longtemps.
Et se faire des tartines de semaine.
Et c'est surtout indispensable pour la cuisine marocaine parce que ça donne ce goût particulier qui est très apprécié.
Et dans les pains notamment, quand vous avez dit beurre clarifié, comme si on savait de quoi on parlait.
Oui, alors le beurre clarifié, c'est qu'on enlève l'eau du beurre. Donc on le fait fondre tout doucement et on enlève les impuretés qui surnagent au-dessus. Il y a toujours une petite mousse. On enlève ça avec une cuillère tout simplement. Et ensuite, on transvase le beurre sans prendre le dépôt blanc qu'il y a au fond.
Donc, qui est là, la crème, en fait.
En fait, c'est des résidus de petit lait. Parce que ça peut donner des mauvais goûts, des choses indésirables. Donc, on ne garde en fait que la matière grasse du beurre. Et c'est ça qu'on va mettre dans la jarre et qu'on va laisser maturer très très longtemps.
Pour se faire ensuite des gâteaux incroyables, des baklavas,
tout ce qui est
fermenté, le baklava. Oui, fermenté.
Il y a du fermenté dans tout finalement, dans tout ce qui est bon, si on y réfléchit.
Et ça apporte ce petit goût. On va parler du goût, mais vous, quel est le goût de l'aliment fermenté que vous préférez?
La typicité de l'aliment fermenté, je crois que c'est le goût acide. Acidulé. Et dans notre inconscient, acide égale sain, quelque part. Alors que, si on y réfléchit, sucré, on se méfie un peu quand c'est trop sucré, on se dit ça doit pas être sain. C'est pareil quand c'est trop amer, l'amer aussi, c'est quelque chose dont on se méfie un petit peu. Tandis que l'acidité est plus...
C'est de votre goût.
Voilà.
Est-ce que vous faites des gâteaux ou quelque chose comme ça, avec justement que vous retrouvez tout ça,
l'acidité, on en rajoute tout le temps dans la cuisine. On va toujours ajouter une petite pointe de jus de citron ou une petite pointe de vinaigre ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui équilibre, en fait, les autres saveurs, je trouve.
Je vous suis.
Le goût du monde. Clémence de Navi. Des oignons, des confitures et des œufs durs.
macarons, un tire-bouchon, des petits beurres et de la bière, des cornichons. On n'avait rien oublié, c'est maman qui a tout fait. Elle avait travaillé pour nous sans s'arrêter, pour préparer les paniers, les bouteilles, les paquets et la radio. Le poulet froid, la mayonnaise, le chocolat, les champignons, les ombres boîtes et les tomates, les cornichons.
Les cornichons de Léo Ferrer sur RFI. Vous écoutez Le Goût du Monde, les goûts du monde. Merci aux aliments fermentés qui portent en eux les traditions et les terroirs qui permettent à deux parcelles de vin de ne pas avoir le même goût. Ça, c'est la diversité. Nous parlons de fermentation avec Marie-Claire Frédéric, dont le livre « Ni cru, ni cuit, une histoire de la fermentation à travers les âges et les hommes » vient d'être réédité aux éditions de l'Alma. Alors, on a dit juste un mot avant cette chanson que j'aime beaucoup, les cornichons. On a dit un mot de lactofermentation. Alors dissipons tout de suite les doutes. Il n'y a pas de lait.
Il n'y a pas de lait. Ça n'a rien à voir avec le lait. En fait, on l'appelle ainsi donc parce que les micro-organismes vont fabriquer de l'acide lactique. Alors l'acide lactique, on le nomme ainsi parce que quand on l'a découvert à la fin du 19e siècle, on l'a découvert dans les produits laitiers, dans le lait. Mais c'est un acide qui est présent dans plein d'autres aliments. Il est présent dans la choucroute, par exemple. Alors si on l'avait découvert dans la choucroute, on l'aurait peut-être appelé acide choucroutique. Voilà, donc c'est tout à fait un hasard qu'on l'appelle acide lactique. Mais ça n'a rien à voir ni avec le lait, ni avec le lactose.
D'accord, donc voilà. Tous les intolérants, tous ceux qui n'aiment pas, tous voilà. Ceux qui n'ont pas, peuvent tout à fait faire fermenter
leurs légumes.
Est-ce que c'est la fermentation privilégiée des légumes?
Oui, c'est la fermentation. Alors la lactofermentation, c'est la fermentation des légumes, des viandes, le saucisson par exemple, c'est une lactofermentation. La sauce soja, c'est une lactofermentation. Le garum et le nuokmam des sauces poissons sont aussi des lactofermentations. Voilà, il y a énormément de procédés qui utilisent cette fermentation.
Le garum, vous avez dit ça.
Le garum vient de loin. Le garum, c'est la sauce assaisonnement phare de l'antiquité gréco-romaine. Donc c'est la même chose que le nuokmam vietnamien actuel. Donc ce sont des petits poissons, des anchois qu'on faisait fermenter jusqu'à ce qu'ils se décomposent complètement, jusqu'à ce qu'ils se liquéfient complètement, et ça donne donc une sauce. Ça donne un jus, voilà, qui est très aromatique, très concentré, et qui assaisonne plein de plats.
Et le nuokmam, voilà. C'est aussi...
Le nuokmam, c'est exactement la même chose, en fait. C'est la recette est la même. Le procédé est identique. Alors ça, c'est aussi une énigme. Pourquoi ça se trouve dans des endroits du monde si éloignés depuis longtemps?
Parce que c'est bon, voilà. Peut-être.
Parce que c'est bon. Il y avait des routes commerciales qui allaient de
qui rejoignaient très, très longtemps, l'Asie, qui les différents l'Asie, continents, oui, bien oui. Sûr. Du coup, on avait cet apport.
Voilà. Mais on ne sait pas dans quel sens.
Alors, ce qui est incroyable dans cette fermentation, on est d'accord, quand vous parlez des micro-organismes, vous parlez de quoi?
Alors, je parle de bactéries, de levures et de moisissures.
D'accord.
Donc les bactéries sont des petits êtres unicellulaires qui étaient là bien avant l'humanité et c'est même les premiers êtres vivants à être apparus sur la Terre et ils seront encore là bien après nous.
Et ces petits êtres, est-ce que les microbes et micro-organismes, même chose, pas même chose?
Oui, microbes et micro-organismes, c'est la même chose.
Et donc ce qui est assez fascinant dans la fermentation également, c'est que peu importe où on se trouve, ça va changer les goûts, ça va donner un goût, on en parlait tout à l'heure, mais y compris en termes de terroir, donc d'un village à un autre, d'une situation géographique à une autre, et d'une saison à une autre, on n'aura pas les mêmes goûts en définitive.
Exactement. En fait, les micro-organismes viennent de la terre, viennent du sol. Quand on fait fermenter un légume, ce sont les micro-organismes de la terre dans lequel le légume a poussé, qui sont sur le légume, et ce sont ces micro-organismes qui vont ensuite assurer la fermentation. Donc chaque légume est différent, parce qu'il a poussé dans un sol différent. C'est pareil pour la bière, l'orge aussi, c'est différent. Pour le vin, le raisin a poussé dans des sols différents. Mais on parle évidemment du sol en tant que composition chimique, un sol argilo-calcaire, etc. Mais ce qui est très important, ce sont aussi les micro-organismes qui sont dans le sol et c'est eux qui vont donner ces goûts différents.
Et qui font qu'il est vivant,
ce sol.
Voilà. Justement, alors il y a en Corée,
C'est devenu très à la mode aujourd'hui. Il y a le kimchi. Ce sont des légumes fermentés. J'ai rencontré Madame Park Kwan-hee. Alors, c'est une femme, elle est artisan coréenne. C'est une figure hein, en Corée du kimchi. Et je lui ai demandé ce qu'était le kimchi, qu'est-ce que ça voulait dire et de quoi on parlait.
Kimchi, c'est
comme un plat national en Corée. C'est un condiment. Mais en Corée, il y a à peu près 5 condiments plus connus et consommés. Et kimchi, c'est comme en France, c'est fromage. C'est comme un produit fermenté à base de choux blancs. L'histoire du kimchi, c'est tellement des siècles est passé par nos ancêtres. Et maintenant, c'est classé patrimoine immatériel à UNESCO.
Comment on est arrivé à fermenter en Corée les aliments?
À l'époque, il n'y avait pas de frigidaire pour conserver plus longtemps. Parce que comme en Corée, il y a 4 saisons et le chou, on cultive, c'est en automne. Mais pour passer l'hiver jusqu'à l'an prochain, il faut bien conserver. Et ce fameux kimchi ou les légumes, ça c'était une méthode pour conserver plus longtemps. Chaque région, il y a différentes sortes de kimchi. Kimchi pimenté, kimchi blanc, et c'est pas du tout pimenté. C'est une sorte de pickle. Mais on a assaisonné avec plusieurs des ingrédients, mais aussi les poudres au piment. Madame Bach, elle est spécialiste de kimchi parce qu'elle utilise ces anciennes méthodes. C'est une méthode traditionnelle ancestrale. C'est pas un grand producteur. Et chaque temps, elle est différente en goût. Kimchi, c'est tout au début, on mange, c'est très frais, et deuxième, c'est un peu plus mariné, plus saumur, et on peut avoir 1000 goûts pendant la durée de conservation. C'est un symbole de la Corée, et c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment la limite, parce que si kimchi, un an après, on peut rincer, et puis on fait la galette, on fait le ragoût de kimchi, et tout. Les kimchi, c'est on jette jamais.
Est-ce que je peux demander à Madame Park quel est le kimchi de son cœur?
Généralement,
kimchi, c'est à base de chou. Mais ça dépend du goût. Elle personnellement, elle aime le radis. Kimchi, radis blanc. Et comme elle habite à la montagne, elle a plein des ingrédients naturels. C'est-à-dire, elle peut ramasser plein des ingrédients, par exemple pissenlit, et aussi il y a les feuilles de l'ail sauvage, et aussi il y a plein de petites feuilles de plantes, etc. Et elle a commencé à utiliser ces genres d'ingrédients. Alors, c'est pour ça qu'elle voulait nous dire qu'elle a récemment découvert plusieurs sortes de kimchi. C'est comme des pickles. C'est fermenté, assaisonné, mariné avec le jus de l'ail. Et aussi, il y a des saumures si on met des sels, etc.
Le kimchi, est-ce que c'est quelque chose qu'on fait en famille? C'est quoi le contexte?
C'est normalement en Corée, kimchi, c'est le plus grand projet de l'année. Parce qu'on prépare un kimchi pour une année complète, pour toute la famille. On prépare kimchi tous ensemble. Parce que sinon, ce n'est pas possible. Parce qu'on fait minimum 100 pièces par famille.
Et d'où tient-elle son kimchi, sa recette?
Sa maman. Comme cette région, c'est pas trop pimenté, plutôt un goût un peu plus doux. Elle a hérité le goût de sa mère et puis elle a commencé à base de ce goût. C'est comme une drogue.
Madame Park Kwan-hee, qui est donc une des reines du kimchi en Corée. Marie-Claire Frédéric, vous en servez, vous, dans votre restaurant?
Oui, nous servons du kimchi dans notre restaurant. Que
donc,
nous préparons.
Suri.
Suri.
Votre restaurant. Qu'est-ce que ça veut dire que suri?
Alors, suri, c'est un très vieux, un mot de la langue française, déjà, qui signifie acide. Quelque chose, une pomme pas mûre, on dit qu'elle est sûre, elle est acide. Et la racine de ce mot est très ancienne, parce qu'elle remonte au proto-indo-européen. C'était une langue qui était parlée il y a 5000 ans en Asie centrale et qui a donné des mots dans toutes les langues européennes. Par exemple, en anglais, le levain pour faire le pain se dit sourdough. Sour, c'est la même racine que suri. En allemand, la choucroute, sauerkraut. Le mot sour, c'est aussi la même racine que suri. En français aussi, il y a un mot aussi que tout le monde connaît qui vient de cette racine, c'est le hareng sort. Le hareng sort qui est fermenté. Donc le mot sort signifie fermenté. Dans les Alpes, un fromage s'appelle le cérac ou le céré. C'est un fromage de petit lait. Et le petit lait en latin, c'est le sérum. Tous ces mots viennent de cette racine suri. Voilà.
Et donc, dans votre restaurant suri, c'est un défi quand même, parce que je crois que vous ne servez que des aliments fermentés.
Dans tous les plats que nous servons, il y a au minimum un élément qui est fermenté.
Donc si voilà. On a une belle assiette devant nous, par exemple, qu'est-ce que je trouverais dans mon assiette?
Alors par exemple, récemment, là, une toute nouvelle assiette que nous avons créée, c'est l'assiette Océane. Alors on trouve tout un assortiment de poissons fermentés, suris, dont le fameux hareng sort, mais pas seulement. Il y a du hareng mariné danois qui est délicieux. On a du keeper, plusieurs sortes de poissons. On a aussi un tartare d'algues dans lequel il y a des capres, des cornichons qui sont fermentés. On a une petite salade de pickles qui sont fermentés et une crème fraîche crue maturée en fermentation naturelle, en maturation spontanée. Donc il y a une petite crème aux herbes et nous avons également des blinis qui sont faits avec une pâte fermentée au levain naturel.
Et vous me mettrez avec ça, madame, un petit edge, s'il vous plaît, un hydromel, une bière ou alors un verre de vin, j'hésite. Ou peut-être même une petite boisson pétillante à la fleur de sureau.
Exactement, nous faisons
le gingembre.
De la ginger ale qui est naturellement fermentée. Ou du kéfir de fruits aussi.
Voilà, c'est incroyable. La fermentation, elle fascine également les chefs. Quand on regarde le monde, ils en ont fait d'ailleurs une signature quand on pense à René Redzepi au restaurant Noma, là on est au Danemark.
Exactement, René Redzepi fait beaucoup de fermentation. Il y a énormément de chefs qui s'intéressent à cette technique. Il faut dire que c'est une technique qui va rajouter du goût dans les plats sans avoir recours à des arômes ou à des choses artificielles. Donc c'est une manière naturelle de rajouter des saveurs et du goût.
On va étendre la palette.
On va étendre la palette.
La palette gustative.
Exactement.
Dans le pain français, j'ai envie de dire, il y a forcément la graine qui fait le pain. Donc la farine du pain. Frédéric Pichard, lui, il est boulanger à Paris et il est l'un des derniers boulangers à faire du pain français, c'est-à-dire un pain 100% blé, sans ajout, aucun. Et son levain fermente deux fois. Je vous propose de l'écouter.
En fait, on fait un levain géant. Contrairement à du pain au levain, on va mettre une partie de levain pour ensemencer la fournée. Là, on fabrique un levain que l'on va cuire en entier. C'est la seule solution pour développer finalement un bouquet aromatique, pour développer suffisamment de levures qui sont contenues dans la farine. Parce que le bouquet aromatique, c'est de là qu'il vient. Il ne vient pas de la levure ajoutée ou de tout artifice que l'on peut mettre.
Il y a une étape clé, c'est la fermentation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette fermentation?
Ça sert finalement à sublimer le produit qui est la farine. Donc dès l'instant qu'on met l'eau dans la farine, on enclenche le processus de fermentation. Donc le but, il est de développer un bouquet aromatique, donc ça c'est vraiment du savoir-faire, ça veut dire qu'il n'y a pas de recette. Donc étant donné que le blé est une matière vivante, qui va être différente à chaque millésime, on aura des temps de pétrissage plus ou moins longs, le taux d'hydratation, c'est-à-dire la quantité d'eau que l'on mettra, sera plus ou moins importante d'une année sur l'autre, et les temps de fermentation seront plus ou moins importants. On est vraiment dans une adaptation à la matière, parce que la matière est vivante. Étant donné qu'on garde le blé en grain, et qu'on le moue au fur et à mesure que l'on en a besoin. Donc tout au long de l'année, après chaque écrasement, il y a des réajustements, puisque le blé va être différent tout au long de l'année. Le pain français, il y a un agrément de mâche avec des notes de lait. Au niveau de l'odeur et au niveau du bouquet, on est sur quelque chose de doux. Et donc peu de sel, puisque le sel, c'est un exhausteur de goût. Et si on mettait beaucoup de sel, finalement, on masquerait tout le travail que l'on fait.
Obtenu donc par ce bouquet aromatique, ça laisse un peu rêveur,
Marie-Claire. C'est magnifique. recette magnifique. Tous les boulangers devraient faire ça, quoi.
On a les galettes, évidemment. On retourne en Éthiopie, l'injera. Oui. On a des pains fermentés comme ça qui sont identitaires.
Oui, oui, sont tout. Le fermenté, en général, c'est identitaire. Oui, les pains dans le monde, c'est quelque chose de très, très varié aussi. Donc, des pains qui sont fermentés spontanément, quoi, en fermentation naturelle.
Quand vous dites les aliments fermentés sont généralement identitaires.
C'est-à-dire que tout ce qu'on met en avant, en général, dans les cultures gastronomiques, c'est toujours l'aliment fermenté. On a parlé de la Corée, par exemple. En Corée, il y a le kimchi, qui est quelque sorte le plat national coréen. Même en France, ce qu'on met en avant dans notre gastronomie, c'est nos grands vins, les fromages, le lait, le beurre, la crème. Si vous allez en Allemagne, ça sera la bière, le pain noir, la charcuterie. Au Japon, le miso, la sauce soja. Enfin, dans toutes les cultures gastronomiques, ce qu'on met en avant, l'aristocratie de l'aliment, c'est la fermentation.
Parce qu'elle porte en elle, cette alimentation, justement, les ferments et le goût du pays. Est-ce que c'est pour ça?
Exactement. En fait, le fermenté n'est pas délocalisable. L'industrie essaie de fabriquer du roquefort à Pékin ou à Tokyo ou je ne sais où, mais ça n'est pas du roquefort, vous êtes d'accord, ça ne sera pas la même chose, ça sera un autre produit. Mais le véritable, je parle du roquefort, bon, je pourrais citer d'autres fromages.
Le camembert.
Le camembert.
Emblématique.
C'est pareil, le camembert c'est emblématique aussi. Mais s'il est fabriqué ailleurs que dans son pays d'origine, ça ne sera pas la même chose, ça n'aura pas le même goût, ça sera complètement différent. Donc la fermentation, ça donne le goût du pays natal. Le goût de... Et très souvent, quand des gens sont expatriés, ce à quoi ils rêvent, c'est d'avoir l'aliment fermenté de leur pays natal.
Celui de toujours.
Les Français, par exemple, à l'étranger, ils veulent quand on va en rendre visite à des Français expatriés, ils veulent qu'on leur amène un saucisson, une bouteille de vin ou un fromage. Très souvent, c'est ça.
Les épices sont-elles fermentées également?
Certaines épices peuvent l'être aussi, oui, oui. C'est pas général, mais très souvent.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Jamou de Oumou Sangaré sur RFI, vous écoutez Le Goût du Monde. Nous sommes vivantes, très vivantes, puisque nous parlons de la fermentation et donc de donner de la vie à la vie et poursuivre la vie. Ça sert un peu à ça, la fermentation également, avec Marie-Claire Frédéric. Dans la fermentation, il y a un aspect qui a été évoqué par Madame Pakwangi tout à l'heure, c'est celui du partage et de la transmission. En quoi est-ce que c'est quelque chose de très social, la fermentation?
Alors, oui, les aliments fermentés, ce sont des aliments très sociaux. Alors déjà, au niveau de la fabrication de ces aliments, bien souvent on doit se réunir ensemble, soit au niveau de la famille, parfois même au niveau du village, pour fabriquer les jars d'aliments fermentés qu'on va conserver tout l'hiver pour avoir des provisions. Mais c'est aussi le cas au niveau de la consommation, principalement au niveau des boissons. Les boissons fermentées, en général, on les consomme entre amis, ensemble, pour célébrer un événement.
Il y a une photo, d'ailleurs, voilà, dans votre livre, Ni cru ni cuit, de personnes partageant une bière avec de longues
c'est ça,
tailles.
De
on
longues
est en Ouganda, je
c'est
crois.
C'est ça, c'est ça. Alors, c'est le cas en Afrique, mais aussi en Asie, traditionnellement. La bière se partage, se boit toujours en groupe. Jamais, on va jamais, on n'a pas l'idée de boire tout seul de la bière. Et c'est en groupe. Et il y a une jarre commune au milieu de l'assemblée. Et les personnes le boivent avec une longue paille. Et ça, c'est très ancien aussi.
Il y a également cette notion de partage, de transmission, mais des éléments qui vont permettre cette fermentation. Je pense aux grains de kéfir, je pense, parce que il y a des aides à la fermentation.
Il y a des aides à la fermentation qu'on appelle des starters ou des levains. Donc, par exemple, pour faire du kéfir, que ce soit du kéfir de lait ou du kéfir de fruits.
Qu'est-ce que c'est que le kéfir?
Le kéfir, c'est quelque chose de très mystérieux. Ce sont des grains. Ça ressemble, alors c'est un peu différent pour le lait et pour l'eau. Pour le lait, ce sont des petits grains blancs, opaques, qui ressemblent à des mini choux-fleurs. Pour la boisson kéfir d'eau, ce sont des grains qui sont, c'est un peu le même genre, mais les grains sont translucides et ressemblent un peu à de la glace pilée ou à du gros sel. Voilà. Et ces grains, donc, qu'on les mette dans le lait ou dans de l'eau sucrée avec des fruits, vont vous donner donc une boisson. Donc, pour le lait, c'est un genre de yaourt à boire. Et pour le kéfir de fruits ou d'eau, c'est une boisson type limonade. Voilà. Et donc ces grains, c'est très mystérieux parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Ça se transmet de personne qui en fabrique à personne qui veut en fabriquer. Et il y a tout un circuit comme ça. C'est intéressant parce que ça échappe à tous les circuits commerciaux. C'est quelque chose qui se donne. Et c'est fascinant parce qu'on ne sait pas depuis quand ça se donne. Ça peut être très ancien. Il y a une étude en ce moment qui est faite par le Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, qui va peut-être nous apprendre d'où viennent les grains de kéfir.
Mais est-ce qu'on veut le savoir au juste?
C'est bien d'avoir les mystères. C'est bien aussi de garder certains mystères.
Comme ça,
oui,
on peut pas le reproduire. Le kombucha aussi, ça c'est un vrai mystère pour moi aussi.
Alors le kombucha aussi, le kombucha fermente du thé sucré. Il transforme en une boisson qui n'a plus du tout le goût du thé, qui est un petit peu pétillante, qui est très rafraîchissante en été. Ça vient d'Asie, on ne sait pas aussi quelle en est l'origine. Peut-être un jour, on a laissé du thé comme ça reposer très très longtemps, et ça a formé une sorte de mer sur le dessus. Ça ressemble beaucoup à une mer de vinaigre, mm-hmm, le kombucha.
Ce mot est très joli aussi, la mer.
Exactement.
C'est celle dont on tire ensuite.
Ensuite, là, voilà, toutes les autres, c'est l'ancêtre en fait. On tire toutes les autres préparations.
Et les autres fermentations. Et la mer, du coup, comment est-ce qu'on fait quand on a, si je veux par exemple, si je n'ai ni kéfir, ni kombucha, est-ce que je peux quand même essayer d'obtenir...
Non, c'est impossible. Il faut, on ne peut pas fabriquer ex nihilo cette substance qui est un ensemble symbiotique de micro-organismes, donc de levures et de bactéries, qui vivent ensemble en symbiose. C'est-à-dire que chaque petit micro-organisme va fabriquer des substances qui sont favorables à l'autre et vice-versa. Donc c'est vraiment une symbiose, c'est une coopération entre les micro-organismes et qui vivent là-dedans et qui fabriquent pour nous cette substance. En fait, c'est aussi un paradoxe parce que c'est quelque chose de naturel puisqu'on ne peut pas le fabriquer artificiellement. Mais sans l'homme, ça n'existerait pas. Si on ne le cultivait pas, ça n'existerait pas.
On peut faire de la mer de vinaigre.
La mer de vinaigre, il suffit de laisser du vin comme ça à reposer à l'air, à la chaleur, à l'air, et au bout d'un certain temps, ça va faire du vinaigre. Et ça va faire une mer de vinaigre que vous allez pouvoir partager aussi avec vos amis qui veulent faire du vinaigre.
Ça, du coup, c'est très sociable. Est-ce que c'est cet aspect-là qui est très réjouissant, en fait,
oui, tout
dans
à
la
fait.
Fermentation, le fait que ça ne puisse pas être industrialisé?
Ça ne peut pas, voilà. Alors, les industriels s'en sont quand même un petit peu emparé, mais les industriels, bon, ils ont des ferments cultivés en laboratoire qui sont toujours pareils, ça donne un résultat toujours identique. Mais dans la fermentation naturelle, celle que nous pratiquons à notre restaurant, ça donne un résultat complètement différent. C'est vraiment l'anti-uniformisation des goûts et de la nourriture. C'est une espèce de biodiversité de l'alimentation. C'est quelque chose qui n'est jamais pareil, et c'est follement intéressant.
Est-ce que vous pensez que les enfants, quand on naît quelque part, que son palais aussi, il est formé à cette fermentation et à ses goûts?
Oui, je pense justement, on parlait que la fermentation, c'était le goût du pays natal, le goût de l'enfance, parce que quand l'enfant, donc on l'habitue petit à petit à des tas de goûts différents, et si les choses sont bien faites, donc on va lui donner une alimentation la plus variée possible, dans laquelle il y aura, j'espère, des aliments fermentés, et ce goût vient justement aux enfants.
Est-ce que vous partagerez des recettes avec nous?
Oui,
forcément.
Fait,
alors
sûr.
Laquelle? Celle de base qu'on doit toujours avoir auprès de soi quand on n'a pas. Hein, on est d'accord de kéfir et de kombucha. Mais celle qu'on peut vraiment avoir dans son épicerie, enfin dans son placard et dans sa maison au quotidien.
On peut
quoi.
Fabriquer une petite choucroute, par exemple.
Par
c'est
exemple.
Tout simple. Mais quand je dis choucroute, c'est pas forcément avec du chou. On peut le faire la même chose avec d'autres légumes.
Oui, c'est juste un légume
c'est
fermenté.
C'est juste un légume
en fait.
Fermenté. Voilà. Alors, le légume, vous allez, par exemple, le chou, vous l'émincez finement. Vous le mélangez avec du sel, 1% de son poids en sel. Donc pour 1 kg de chou, 10 g de sel. Ensuite, vous allez bien malaxer le chou avec le sel. Le sel va faire un peu sortir le jus du chou. Vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez les mains mouillées. Ensuite, dès que ça se produit, vous tassez fortement votre chou dans un bocal type bocaux avec un joint de caoutchouc et un levier métallique
en verre,
voilà. Vous tassez bien votre chou dans le bocal jusqu'à le remplir, jusqu'à 1 cm ou 2 cm en dessous du haut. Vous fermez le bocal hermétiquement avec le joint de caoutchouc en place et le levier bien fermé. Vous laissez à température ambiante et après 1 ou 2 semaines, selon la température ambiante, vous aurez votre choucroute qui se conservera plus d'un an.
Et vous aurez des laboratoires chez vous, et donc prévenez un peu vos proches, parce que il va y avoir des maisons entières transformées en laboratoire. Vous, quel est l'aliment fermenté que vous avez découvert et qui vous a le plus marqué, s'il y en avait un?
Ben moi, s'il y en avait un, ça serait le pain au levain, parce que si je devais emmener quelque chose dans une île déserte, par exemple, j'emmènerais du levain pour faire du pain. Voilà, faudra qu'il y ait du blé évidemment sur mon île, mais
une céréale quelconque,
voilà. Mais ça c'est assez magique à faire, à fabriquer. C'est quelque chose de, c'est le levain qui gonfle. C'est un peu comme le ventre d'une femme enceinte, voyez. C'est la vie. C'est quelque chose de comme ça, de tout à fait vivant. Et c'est assez fascinant à observer.
Alors vous nous avez parlé de cet ingrédient que vous emporteriez avec vous. Et alors, vous auriez un ustensile à emporter sur cette île déserte.
Alors, l'ustensile phare de la fermentation, c'est la jarre. La jarre, parce que bon, c'est évidemment dans la jarre qu'on fait fermenter toutes sortes de choses, hein, que ce soit les légumes, que ce soit les viandes, le saloir. La jarre, c'est quelque chose de symbolique aussi, la jarre, parce que c'est aussi, je parlais d'un ventre, c'est un peu ça, c'est quelque chose de rond, de féminin, et c'est aussi le symbole de la vie. La jarre, c'est aussi le chaudron des sorcières. Il y a quelque chose de voilà qui se passe de magique un peu là-dedans, et c'est l'idée de la sorcière qui concocte des mixtures qui peuvent être aussi fermentées et qui ensuite, on ne sait pas pour quel usage elles sont réservées, mais ça peut être aussi pour des choses un petit peu surnaturelles.
Voilà. Nous avons une sorcière en studio aujourd'hui. Marie-Claire Frédéric, ce souris n'existait pas il y a 6 mois.
Voilà,
c'est une reconversion professionnelle ou plutôt une continuation professionnelle. Comment est-ce que vous êtes dans cette vie de restauratrice?
C'est une nouvelle vie tout à fait inattendue, en fait. Bon, ça fait quand même un petit moment que je mûrissais le projet, mais c'est très très intéressant, c'est autre chose. Pour moi, c'est quelque chose de passionnant. Je m'intéresse beaucoup, j'essaie d'imaginer de nouvelles recettes, d'imaginer des goûts, tout ce qui pourrait faire plaisir à mes clients.
Et vous créez.
Voilà, tout à fait.
Eh bien, longue vie à Surie. Merci beaucoup Marie-Claire Frédéric.
Merci.
C'était encore
un
formidable voyage. Nous mettrons bien sûr sur la page du Goût du Monde quelques recettes, en plus de celles que Marie-Claire nous a données. Et vous, racontez-nous par exemple, faites-vous votre bière, l'attiéké est-il fermenté? Racontez-nous ce que vous trouvez de ce petit goût qui vous plaît tant dans les produits fermentés sur les réseaux sociaux et sur WhatsApp 33 6 43 16 15 66. Cécile Bonici a réalisé cette émission, merci beaucoup à elle. Merci à vous de votre fidélité au Goût du Monde. Ça fait du bien, en fait, de vous retrouver chaque semaine, chaque jour et chaque semaine plus nombreux. Alors, je vous dis à samedi prochain.